Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 30 septembre 2022. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin du mois et que peut-être on va repartir à zéro avec une page blanche à partir de lundi prochain. Mais par contre, pour l'instant, ça reste très très compliqué puisque le répit auquel on a eu droit mercredi à cause de la Banque d'Angleterre, eh bien, il n'aura pas duré très longtemps puisque à peine sorti de la théorie du soutien de la Banque d'Angleterre, du retour du soutien des banques centrales, eh bien, on s'est retrouvé dans la situation de « Oh mon Dieu !» Mais on s'approche quand même de la récession, et donc c'était un petit peu le thème du jour avec aussi le massacre de quelques secteurs, des downgrades assez importants sur des titres assez importants, ce qui fait qu'on termine la journée au plus mal, et j'ai envie de dire au bord du gouffre, si on fait encore un pas en avant, si on n'a pas un parachute de base jump, eh bien ça va être très très compliqué. Tout d'abord, hier, il y a eu des chiffres économiques. Alors, on va noter deux chiffres économiques importants à retenir, trois même. Le premier, c'est le CPI en Allemagne, 10,9% sur le CPI du mois dernier. On voit que ça va super bien, et quand on voit la tronche des prix du gaz qu'on a eu récemment et ce qui nous attend ces prochains mois, eh bien, on n'est pas sûr que le CPI en Allemagne se réduise. Alors, on entend dire que l'Allemagne est en train de débloquer du pognon pour caper les factures des ménages, les factures d'électricité des ménages. Alors, on est tout content par rapport à ça, mais c'est un peu la même stratégie qu'a utilisé le gouvernement britannique il y a quelques jours, qui n'a pas du tout plu au marché. Alors, pour l'instant, on voit pas d'autre alternative, c'est vrai, puisqu'aujourd'hui, vu l'explosion des factures de charges énergétiques pour les ménages un peu partout dans le monde, ça va être très très compliqué en termes d'inflation, mais en termes de dépenses, tout simplement, ces prochains mois. Donc, c'est moche, et puis quand on voit les chiffres du CPI, c'est pas super rassurant. Alors ça, c'était la première nouvelle pas terrible. La deuxième nouvelle pas terrible, c'était le PIB américain, le GDP, comme on l'appelle là-bas. Eh bien, grosso modo, là aussi, il est en négatif pour le deuxième trimestre consécutif. Donc, si on prend les règles économiques qu'on a appris à l'école, techniquement, les USA sont en récession. On peut dire ce qu'on veut, on peut le retourner comme on a envie, mais techniquement, les USA sont donc en récession, on va pas se le cacher. Alors on sait, on a déjà discuté du sujet, hein, monsieur Biden et madame Yellen sont pas vraiment d'accord sur la définition du mot récession, mais enfin peu importe. On va dire que certains pensent que nous sommes en récession et on va dire que d'autres pensent qu'on y sera bientôt. Entre deux, il n'y a pas vraiment d'alternative parce que ceux qui pensent qu'on va y échapper et que ça va être super bien et puis qu'il y aura des feux d'artifice à la fin de l'année, eh bien ils sont de moins en moins nombreux pour ne pas dire quasiment inexistants dans le marché aujourd'hui. La peur est bien présente et le mot récession est à nouveau partout. Donc le petit soutien, le petit répit qu'on a eu durant la séance de mercredi, hein, pour l'instant, il est bien effacé. Si on regarde juste les graphiques en zoomant un petit peu dessus, vous voyez sur le S&P 500 par exemple que finalement on a terminé au plus bas en termes de clôture, au plus bas depuis 2020. Alors ça, c'est pour la clôture. Par contre, si on regarde les extrêmes plus bas, ben, les extrêmes plus bas, c'est 3598. C'est là où on est allé taper durant le début de la crise de mercredi matin, avant de rebondir. Et puis on a toujours ce fameux 3585 qui correspond à la moyenne mobile des 200 semaines. C'est un tout petit peu ce qui nous reste pour s'accrocher au mur et ce qu'on peut espérer qui va tenir ces prochains temps si on veut pas aller plus bas. Malheureusement, ça se complique aussi un petit peu au niveau des chiffres et des jobless claims. Hier soir, les jobless claims sont sortis plus faible qu'attendu, donc c'est le meilleur chiffre en termes absolus, puisque depuis 5 mois, on n'a pas eu aussi peu d'inscriptions au chômage, ce qui veut dire que le marché de l'emploi cartonne, alors que de l'autre côté, on a la Fed qui est en train de pagayer dans tous les sens pour essayer justement de ralentir ce marché de l'emploi, pour essayer de faire ralentir indirectement l'inflation. Donc pour l'instant, c'est une bonne nouvelle du point de vue technique, puisque n'oublions pas que si on crée de plus en plus d'emplois, c'est positif pour tout le monde, mais c'est une mauvaise nouvelle du point de vue économico-psychologique, puisque du coup, ça veut dire que la Fed va devoir continuer encore et encore à monter les taux. Donc, bonne nouvelle transformée en mauvaise nouvelle, ce qui fait que finalement, eh bien, on a eu les conséquences qu'on a eues hier soir, mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que hier soir, il y a également eu des downgrades assez massifs sur Apple, Bank of America, qui n'est pas la moindre des banques d'affaires aux États-Unis, a donc décidé de baisser son objectif de prix sur Apple et de la mettre à la place d'être sur achat, de la mettre sur conserver. En gros, ça, c'est pas catastrophique en soi, mais là où c'était un petit peu plus négatif, c'est les commentaires qui ont été avec cette déclaration. En gros, l'analyste de Bank of America, alors c'est un analyste, hein, ça veut pas dire qu'il a raison à chaque fois, mais l'analyste pense qu'effectivement, l'Apple qu'on a connu ces dernières années, cette période de gloire qui tournait autour d'Apple, qui faisait tout juste, 100% juste, sans jamais faire d'erreur depuis des années, c'est un peu terminé. Les choses vont se compliquer. On a vu que les iPhones se vendaient plus aussi bien, relativement, ces derniers temps. Donc, du coup, il y a une crainte là derrière. Et lui, il est inquiet pour la suite. Alors, le problème d'Apple, c'est que quand on lui tape dessus, comme c'est quand même juste la plus grosse capitalisation boursière aux États-Unis, et eh bien, du coup, ça pèse sur tous les indices, le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones. Enfin, tout le monde part à la case. Et il y a une espèce d'effet de capillarité qui fait que tout le monde va derrière, va baisser derrière. On va tout vendre. Il va y avoir une pression vendeuse massive. Eh bien, c'est ce qu'on a vu hier soir. Apple a perdu plus de 4%. Et donc, résultat final. Si on regarde les indices, tout a clôturé au plus bas depuis des mois et des mois et des mois, si ce n'est des années. On a vu entre autres le DAX qui terminait assez mal au plus bas depuis novembre 2020. Alors le DAX a des excuses, entre autres c'est l'IPO de Porsche qui a eu quelques conséquences de remaniement ministériel à l'intérieur du DAX. Ce qui nous amène donc à l'IPO de Porsche. Alors l'IPO de Porsche s'est bien passé, le titre prenait 2% à la clôture, 82,50 à l'émission, 84 à la clôture, un truc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal compte tenu de l'ambiance actuelle. Mais là où le bas blesse, c'est que finalement, dans le reste du marché, eh bien, Volkswagen s'est fait démonter de 6%. Et puis, de l'autre côté, vous avez le Porsche, la holding, qui s'est fait démonter de 11% également. Donc, évidemment, pas une bonne nouvelle. On peut être surpris, d'ailleurs, puisque finalement, quand on sait que finalement, vous avez quand même plusieurs actions Porsche, et j'ai vu derrière, dans les commentaires, sous la vidéo hier, que pas mal de gens se posaient des questions sur qu'est-ce qui se passe sur Porsche. Alors, l'action de hier, ce qui s'est passé hier, c'est que l'IPO a fait que finalement, les gens se sont dit, maintenant que Volkswagen a détaché cette partie-là, on va lui enlever une partie de sa market cap. Même chose sur la holding de Porsche. C'est des bricolages en termes d'interprétation. Mais ce qu'il faut quand même bien voir derrière, c'est que on va dire que l'IPO était déjà dans les prix. Donc hier, il y a eu des vagues de prise de profit sur les deux maisons mères quand il y a eu le spin-off, enfin la mise en bourse de l'action Porsche. Donc aujourd'hui, vous avez plusieurs actions Porsche, comme on le disait. Vous avez la holding, qui est la PAH3, grosso modo, qu'on connaît en Allemagne, qui est cotée en Allemagne, c'est la holding. Vous avez la POHAY, je ne sais pas où, là, aux États-Unis. Ça, c'est le certificat américain de Porsche coté aux États-Unis. C'est la même. Simplement, c'est le certificat de la holding, de la maison mère. Et la holding, derrière, elle ne détient pas que des Porsche. C'est la holding de la maison, de la famille Porsche, si on veut bien. Et derrière, maintenant, vous avez la division Porsche P911, ticker super original s'il en est, qui fait que c'est l'action Porsche toute seule. Donc là, ça représente vraiment le business des voitures de Porsche en directement. Alors qu'avant, on n'avait pas moyen de s'exposer directement au business de Porsche uniquement. Il n'y avait que moyen de s'exposer à ça via la holding familiale qui n'avait pas forcément la répercussion immédiate et exacte des performances de Porsche brute, puisqu'une partie de Porsche était également détenue par Volkswagen avec des participations croisées avec la famille Porsche. C'est assez compliqué et complexe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez trois actions Porsche en circulation. La holding, qui est cotée depuis des années en Allemagne, avec le certificat qui est traité aux États-Unis, en dollars, enfin sur les marchés américains et sur les marchés anglo-saxons. Et puis, en troisième, vous avez la nouvelle, la P911, qui probablement va aussi avoir un certificat à terme aux États-Unis. Mais en gros, il faut bien faire la différence entre la holding et la fabrique, l'usine Porsche réelle qui vient d'être mise en bourse hier. Alors en gros, sur cet effet d'annonce, finalement, les deux maisons mères se sont fait allumer, le titre terminait relativement pas mal, mais à la fin, eh bien, on a une journée bien pourrie partout dans le monde, avec des indices qui terminent à des niveaux extrêmement inquiétants. On notera aussi 2-3 mauvaises nouvelles qui continuent dans la série, hein. Je vous dis, on est au bord du gouffre et il manquerait pas grand chose pour qu'on ait cassé un petit peu plus bas. Alors je vais pas me montrer trop déprimé ou déprimant parce que ça devient un tout petit peu fatigant, mais quand même, il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas très bien. Alors je vous passe l'aspect géopolitico-économique, mais on notera encore 2 annonces hier qui sont importantes, voire même 3 annonces en fait. La première, et c'est CarMax qui vend des voitures neuves et d'occasion aux États-Unis, qui a annoncé des chiffres en dessous des attentes des analystes, le titre a perdu 25% pour fêter ça. Donc vous voyez, on fait pas de prisonniers et pas de cadeaux, on pose les questions après. Il y a aussi Nike qui a annoncé hier soir qu'ils allaient avoir des problèmes parce qu'ils ont des inventaires qui sont beaucoup trop élevés et qu'ils allaient devoir vider leurs inventaires en balançant à peu près tout n'importe quoi sur le marché à bas prix. Ça n'a pas été super bien pris par le marché. Le titre a perdu 3% durant la séance, mais en perdait encore 10% après la séance. Ça, c'est vraiment un mauvais signe par rapport à l'aspect consommateur des marges sur le marché, puisque finalement, quand plus personne achète du Nike, il y a une inquiétude là derrière. Ça veut dire que le consommateur devient plus prudent, un peu à l'image de ce qui fait peur sur Apple, sur le fait que les gens ne se ruent pas pour acheter des iPhone 14 Pro Max. Et puis la troisième mauvaise nouvelle, c'est Micron qui a publié des chiffres hier soir après la clôture, des chiffres qui étaient plus ou moins en ligne avec ce que le marché attendait, mais c'est sur les commentaires que Micron a fait qu'ils ont laissé supposer que l'avenir n'était pas super rose, et donc ça pourrait contaminer l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, qui avait l'impression que la mauvaise période se terminait, mais que finalement ça pourrait durer encore un petit peu. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de méfiance à voir, et quand on regarde la tronche du SOX, qui est le référent, l'indice des semi-conducteurs, eh bien on voit que c'est pas beau du tout, que lui a déjà clôturé bien plus bas depuis bien longtemps, et en général on dit que quand le SOX commence à casser, le reste va suivre directement derrière. Donc voilà, en gros ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que ça va pas bien, qu'on est à des niveaux très dangereux. Quand on a un rebond massif en milieu de semaine, comme on l'a eu mercredi, pour se repéter la gueule de plus quasiment le lendemain, c'est vraiment pas un bon signe du tout. On est à des niveaux techniques qui sont vraiment pile poil là où on était chercher les points extrêmes au mois de juin. Donc si on vient à clôturer en dessous des 3000, des 3600, même en dessous des 3585, ce qui serait une catastrophe, là clairement on sera en train d'ouvrir une nouvelle brèche dans la coque du Titanic. Et aujourd'hui, il n'y a même plus de lumière ni de musique à l'intérieur du bateau pour le moment, et tout le monde retient son souffle pour la suite. Au niveau des chiffres, aujourd'hui, on aura pas mal de données économiques. On aura entre autres les chiffres du PCE qui seront extrêmement regardés par la Fed, bien évidemment. On aura les chiffres de la confiance du consommateur version Michigan. Et on aura aussi beaucoup de banquiers centraux qui vont parler encore une fois. Mais il y aura surtout Madame Brainard, qui est la numéro 2 de la Fed, qui parlera ce soir. Et on sait que ces derniers temps, comme elle a un peu le même discours que Monsieur Powell, si elle vient nous répéter encore une fois que son but c'est de fighter l'inflation et puis de se foutre de la gueule de la récession dans l'immédiat, eh ben je suis pas sûr que ça va nous aider à tenir ses supports. Donc, comme disait Coluche, nous sommes au bord du gouffre et je vous encourage à ne pas faire un grand pas en avant. Voilà, comme disait Pierre-Pascal Rossi, telle a été cette journée en Suisse et dans le monde à notre connaissance. Autrement, moi je vous encourage comme d'habitude à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, et puis ben si vous avez rien de mieux à faire, n'hésitez pas à revenir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, et puis à me retrouver tout à l'heure aussi pour le Swiss Bliss hebdomadaire. Passez un excellent vendredi, pour autant qu'il ne devienne pas un Black Friday, et moi je vous retrouve comme d'habitude tout bientôt. Allez, bonne journée à tous, bye bye.